Je pense que vous êtes intéressé de porter du fruit. J'espère que c'est notre plaisir de vouloir porter du fruit. Cette parabole, des fois on me dit, mais c'est pour les inconvertis ou c'est pour les chrétiens la parabole du semeur? C'est pour tout le monde. C'est un état de cœur. Les inconvertis peuvent avoir un cœur sensible, et les païens peuvent avoir, et les chrétiens peuvent avoir un cœur fermé. C'est pour ça qu'il y a tous ces cœurs qui sont représentés, mais il y a un état de cœur, c'est au verset 15, Luc chapitre 8, verset 15, qui indique le cœur que Dieu attend pour qu'on puisse porter du fruit. Luc chapitre 8, verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, donc c'est un cœur qui est travaillé, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Voilà la condition pour les pécheurs qui découvrent l'Évangile, comme pour les chrétiens qui veulent rester spirituels, avoir un cœur honnête. Et quand on entend la parole de Dieu, eh bien on retient. On retient, on dit oui, c'est pour moi. Peut-être que dans la prédication, il va y avoir une parole qui est pour vous. Mais retenons cette parole afin qu'elle nous amène à porter du fruit. Dans le deuxième livre des Rois, il y a une histoire qui s'est passée lorsqu'ils avaient besoin de nouveaux locaux en plus. Vous voyez, ça nous concerne un peu. Deux Rois, chapitre 6, verset 1er. Et je peux vous dire que je ne l'ai pas fait exprès, volontairement, parce qu'il y avait l'Assemblée Générale, parce que le lieu dans lequel nous sommes est trop étroit. Je peux vous dire que ça a été conduit par le Seigneur. Deux Rois, chapitre 6, regardez ce qui s'est passé. Et nous verrons là que nous avons affaire à quelqu'un d'honnête. Deux Rois, chapitre 6, verset 1er. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. » Nous prendrons là, chacun une poutre, et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlevez-le. Et il avança la main et le prit. Amen. Cette histoire, elle est merveilleuse. Elle nous rappelle que Dieu est un Dieu qui fait des choses surnaturelles, merveilleuses. Et il ne faut pas que nous oublions que dans le royaume de Dieu, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de spiritualité et que Dieu veut faire des choses surnaturelles. Alors, pour commencer, je vous pose quelques questions. Nous allons avoir l'Assemblée Générale. C'est quelque chose de très sérieux, une fois par an, d'avoir un compte rendu financier de ce qui se fait dans l'Église, de la façon dont l'argent est utilisé. Bon, pour certains, c'est très sérieux, mais pour moi, il y a plus sérieux qu'un compte rendu financier collectif. La question que je nous pose ce matin, est-ce que nous voulons aller jusqu'au bout avec le Seigneur? Est-ce que nous nous soucions individuellement? Est-ce que nous nous soucions vraiment de la volonté de Dieu? Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? Je veux personnellement faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de faire pour Dieu? Parce que c'est bien joli de faire un compte rendu financier, mais personnellement, qu'est-ce que je suis en train de faire pour le Seigneur? Est-ce que nous croyons également que si ça ne va pas, parce que ça peut arriver, est-ce que Dieu peut nous aider? Eh oui, c'est important ceci. Alors vous avez vu cette affaire, et c'est vrai que je vous assure, je ne l'ai pas préparée, parce que je me suis dit, tiens, il faudrait quelque chose qui tombe pile poil par rapport aux besoins, l'Assemblée Générale, un compte rendu financier, un besoin matériel. J'ai vraiment prié, ça fait plusieurs jours que j'ai à cœur, et c'est hier que j'ai vraiment réalisé que ça correspondait en même temps à notre besoin. Le lieu où ils se trouvaient était trop étroit, il leur fallait quelque chose de plus grand. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été au Jourdain. Le cœur, en fin de compte, de la prédication, il serait là. Parce que le Jourdain, vous savez, représente la mort à soi-même, ça représente tout le temps une transition. Le Jourdain, c'est un lieu géographique, mais qui spirituellement représente un lieu où on veut que ça change. Ils n'ont pas été n'importe où. Vous savez que Jésus a pris le baptême dans le Jourdain. Quand ils sont rentrés dans le pays de Canaan, ils ont franchi le Jourdain, je ne peux pas prendre beaucoup de temps pour expliquer. Mais en vérité, il a pu y avoir le miracle parce qu'ils avaient pris la décision d'être au bon endroit. Le bon endroit, ce n'est pas 9 rue Saint-Guilhem. Le bon endroit, c'est ce que je veux faire la volonté de Dieu, est-ce que je prends au sérieux, par exemple, la prophétie qui a été dite tout à l'heure, il y a peut-être des idoles dans mon cœur, ça m'empêche d'être à ma place et ça m'empêche de recevoir la bénédiction du Seigneur. Et ce n'est pas le sujet de la prédication. Mais franchement, si nous ne saisissons pas cette affaire-là, à savoir de mourir à nous-mêmes, parce que quelqu'un qui prend le baptême, c'est quelqu'un qui a décidé de dire « bon, je ne veux plus faire ma volonté, je veux faire, Seigneur, la tienne volonté ». Est-ce qu'on en est là ce matin? Est-ce que vraiment, même s'il y a des lacunes, est-ce que vous pouvez dire ce matin « mais oui, moi je veux faire la volonté du Seigneur ». Si ce n'est pas le cas, tout ça c'est de la religion, et ça, il n'y aura rien, il y aura de la religion. Mais est-ce qu'on veut de la religion ou est-ce qu'on veut du spirituel? C'est quand même une vraie question, c'est des questions sérieuses. Ça paraît un peu raide comme question, mais je vous assure, c'est la vérité. Est-ce qu'on veut être un chrétien, des assemblées de Dieu? C'est bien. Ou est-ce qu'on veut véritablement entendre ce que Dieu a à nous dire? Ce matin, je lisais dans l'Apocalypse, quand il est dit, quand Jésus se présente à l'église d'Éphèse, qui dit « Je suis celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or ». J'ai lu que ça ce matin. J'ai lu que ça. Je suis resté là-dessus pendant 2 heures. Et j'ai lu ça des centaines de fois. Et j'ai vraiment compris que si Jésus est sorti de l'église de l'Odyssée, je peux vous dire que là où il y a des chandeliers d'or, le Seigneur y marche. Pourquoi? Parce que ça représente les chrétiens qui sont vraiment purifiés et qui obéissent à la volonté du Seigneur. Revenons à notre affaire. Chaque disciple avait la responsabilité de se procurer une poutre. Chaque disciple. Vous avez vu, chacun, si vous avez votre Bible ouverte, nous prendrons là, chacun, une poutre. C'est quelque chose que nous devons tous comprendre. Nous avons tous quelque chose à faire par rapport à l'œuvre de Dieu. Moi, je me réjouis des comptes rendus financiers, je me réjouis de ce qu'on peut faire. Mais moi, franchement, le compte rendu financier, vous allez me dire, Monsieur Gauss, ce que vous dites, c'est grave, mais tant pis. Le compte rendu financier, c'est pas trop important. Moi, ce qui me préoccupe, c'est la responsabilité de chacun. Qu'est-ce que je fais? Il y a parfois des gens qui changent d'église. Ils disent, voilà, moi, je veux changer d'église parce que celle-ci ne me convient pas. Bon, moi, c'est... Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand tu vas te passer devant Dieu? Est-ce que tu vas te sortir d'affaires? J'ai changé d'église parce que si, parce que là, parce que je préférais telle ambiance ou si ou là. Mais qu'est-ce que tu fais pour que l'œuvre de Dieu avance? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as compris qu'il y a des lieux où Dieu nous veut? C'était au Jourdain, c'était pas ailleurs, parce que c'est là où il y a la mort spirituelle. Vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ. Il y a une véritable prise de conscience de vouloir faire la volonté de Dieu. Est-ce que vous savez que vous avez tous quelque chose à faire? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que vous avez quelque chose à faire pour Dieu? Oui. Alors tous se sont mis au travail. Vous avez vu cette affaire, c'est en quelques versets, mais ça suffit. Tous se sont mis au travail et un disciple qui travaillait avec une hache, eh bien, il ne s'est pas rendu compte. Il n'a pas fait attention parce que je peux vous dire que ceux qui ont manié des outils, vous savez tous très bien qu'on sent quand le fer se démanche. On le sent quand un outil se démanche. On le sent avant, croyez-moi. Si vous en avez fait un outil, vous savez que c'est vrai. Il n'a pas fait attention. Il a vraiment... C'est de la négligence. C'est sûr, il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, il est tombé. Et qu'est-ce qui se passe? Il ne pouvait plus travailler. J'ai parlé dimanche dernier de l'importance que quand on est chrétien, on n'est pas qu'enfant de Dieu, on est responsable. Et ça, c'est un truc qui est grave, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne le comprennent plus. Vous avez vu aujourd'hui dans la société tous les problèmes. On est dans les droits. On ne parle jamais des devoirs. C'est un peu rentré dans la mentalité de l'Église. Beaucoup de gens disent, voilà, moi je suis un enfant de Dieu, point barre. Non, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a une responsabilité. Et tout nous l'enseigne, ce texte en particulier. Nous avons une responsabilité de l'outil que Dieu nous a prêté. Dieu nous a tous prêté, tout ce qu'on a, de toute façon, Dieu nous l'a prêté. Vous êtes d'accord? La vie, Dieu nous l'a prêté. Ou est-ce qu'elle vous appartient, votre vie? Est-ce que vous dites, ma vie, elle est à moi? Ou est-ce que vous pensez que Dieu vous l'a prêté, la vie? Vous le savez que Dieu vous a prêté la vie. J'avais expliqué dimanche que la position d'un chrétien se passe à 4 niveaux. Il y a la dépendance. Je dépends de Dieu. Il y a le travail. On va en parler du résultat un peu du travail. Mais cette responsabilité, et bien sûr, un jour, la rétribution. Il y a des chrétiens qui ont, je l'ai dit dimanche dernier, j'ai pris ce texte dans la parabole des talents, il y a ceux qui ont volontairement enfoui un talent, enterré un talent. Là, le fer, il est tombé dans l'eau, il est un peu enterré. On pourrait dire qu'il est enterré, quelque part. Il est noyé. Mais il y a une grande différence entre celui qui enterre volontairement un talent, qui dit « je ne veux plus rien faire », et celui qui, par inadvertance, par négligence, parce qu'il a, de toute façon, il est en train de travailler, c'est déjà moins grave, il est en train de perdre son outil. Alors, il y a ceux qui négligent leurs responsabilités, qui ne font plus rien, et qui ont trouvé des prétextes valables pour ne plus rien faire. Et puis, il y a ceux qui sont en train de travailler et qui, bien sûr, eux, bien sûr, c'est sûr qu'un outil... C'est... Franchement, je vous le répète, moi, j'ai suffisamment travaillé avec des outils chez mon père et travaillé avec des hanches pour savoir qu'on le sent vraiment quelques coups avant que ça tombe, un outil, croyez-moi. Mais vous comprenez qu'il y a une grande différence entre enterrer un talent et puis perdre le fer de sa hache quand on est en train de travailler. On ne peut pas faire grand-chose avec quelqu'un qui enterre le talent. Pas faire grand-chose. Si vous n'êtes pas motivé, est-ce qu'on peut motiver quelqu'un? Voilà, tiens, ça c'est une question. Est-ce qu'on peut motiver quelqu'un? Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à être motivé? Non, on ne peut pas forcer quelqu'un. On peut encourager quelqu'un, mais on ne peut pas le forcer à être motivé. Mais je sais que cette histoire, elle est là pour nous montrer que quand on est honnête, vraiment honnête devant Dieu, on peut recevoir de l'aide. Et Dieu veut nous aider. Mais moi, je vous assure, mes frères et sœurs, l'Assemblée Générale, j'ai prié tout hier, j'ai passé la journée devant Dieu, vous le savez. Pour ce moment, ce sont des moments importants. Certaines personnes ne lisent la Bible que lorsqu'elles sont à l'église. Certaines chrétiennes ont des moments de communion avec Dieu que pendant cette petite heure aujourd'hui où on se retrouve sous le regard de Dieu. Vous comprenez bien que je n'ai pas intérêt à me tromper par rapport à la pensée de Dieu. Et je sais que c'est difficile pour certains. Parce qu'ils sont en train d'enterrer leur talent, et je sais très bien que ça va mal se passer. Et moi, ça me fait beaucoup de mal de voir qu'il y a des gens qui refusent de travailler pour le Seigneur. Je crois que si Dieu nous a sauvés, c'est une grâce, c'est une bénédiction de travailler pour lui. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? Est-ce que c'est une bénédiction de travailler pour le Seigneur? Est-ce que c'est un fardeau ou est-ce que c'est une grâce? Répondez. Ah, répondez-vous, est-ce que c'est un fardeau ou alors pourquoi certains d'entre vous ne faites plus rien? Pourquoi vous avez enterré le talent? Alors c'est vrai que je vous le dis d'une manière abrupte, je pourrais le dire avec un peu plus de douceur, ça c'est vrai. Mais je n'ai pas le temps. Et en plus c'est vrai. Mais quand même mes frères et sœurs, ça peut quand même faire réfléchir certains aussi. Parce qu'un jour on va rendre compte à Dieu, oui ou non? Est-ce qu'on va rendre compte à Dieu? Vous allez passer devant Dieu et ma responsabilité est engagée pour vous aider. Je ne suis pas là pour vous faire un sermon, un bon sermon. Je suis là pour vous aider à dire, mais c'est vrai, l'Assemblée Générale, c'est bien, mais ma vie, celle que tu m'as prêtée, Seigneur, celle que j'ai aujourd'hui, que je peux utiliser pour toi, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je ne te sers pas? Pourquoi je ne fais pas moi aussi quelque chose pour l'Église? Les ministères, tous les ministères, tout ce qu'on a, tout nous a été prêté par Dieu, tout, je le répète. Tout. Vous avez peut-être une très belle maison, mais quand vous partirez, que vous ayez été locataire ou propriétaire, ça ne changera pas grand-chose. Oui ou non? À part pour les héritiers, mais je veux dire, ça ne changera pas grand-chose. Oui ou non? Il n'y a rien qui va vous suivre. Si, les œuvres, toutes les œuvres que vous aurez faites pour le Seigneur. Alors, ils avaient besoin de construire un nouveau lieu de culte. Alors moi, je vous pose la question, mais c'est propre peut-être au conseil d'administration, mais c'est quand même propre à toute l'Assemblée. Est-ce que nous avons besoin de quelque chose de plus grand? Sérieusement, honnêtement, moi je pense que oui, je le pense vraiment. Est-ce que nous sommes conscients que Dieu veut, que Dieu peut nous donner quelque chose de plus grand et que pour cela, il faut que chacun nous fassions ce que Dieu nous demande, d'une manière toute simple. Cette histoire, elle est là, elle s'est passée, elle est dans la Bible, elle veut nous enseigner une vérité, c'est qu'à Dieu, tout est possible. Alléluia. Est-ce que vous croyez qu'à Dieu, tout est possible? Si nous avons perdu un talent, si vous avez enterré un talent, ce qui est beaucoup plus grave encore, imaginons que vous l'ayez perdu, parce que vous étiez en train de travailler, ce qui est mieux. Si Dieu vous redonne un talent, c'est vous qui le récupérerez, mais ça se passera d'une manière surnaturelle. Parce que c'est à la croix que les choses se passent. Ce bout de bois, vous le savez, représente la croix. Et ce que je suis en train de faire maintenant, après avoir fait un exposé, c'est que nous comprenions tous bien que lorsque nous avons perdu quelque chose, lorsque nous avons perdu notre service, lorsque nous avons perdu un ministère, donnez-lui le nom que vous voulez, ça m'est égal. Mais si vous avez perdu quelque chose, le seul moyen pour que nous le retrouvions, c'est la croix. Il n'y a pas d'autre solution. Vous le savez à plusieurs reprises, lorsque les eaux étaient amères, vous vous rappelez qu'est-ce qu'a fait Moïse ? Il a jeté un bout de bois dans les eaux, elles sont redevenues douces. Il n'y a que la croix qui peut changer les choses, qui peut enlever cette amertume et remettre cette douceur. Il n'y a que la croix qui peut ramener la bénédiction du Seigneur. C'est clair, ce bout de bois représente la croix. Et c'est la croix, et uniquement la croix, qui amènera la bénédiction de Dieu dans notre vie. Parfois, on dit aux gens, mais il te faudrait retrouver du service. Tu fais rien dans l'église, tu devrais faire quelque chose. Mais moi, je comprends les gens qui font rien. Parce qu'ils ne peuvent pas refaire avec leur propre force. Et on est là, alors ce que je vais dire, je sais que ça va être mal compris, mais vous allez se faire un effort. On est là en train de dire aux gens, mais oui, il faudrait peut-être aller voir des psychologues, ils vont vous expliquer, oui, peut-être que vous êtes frustré, parce que quand vous étiez petit, vous avez pris 2 ou 3 baffes de trop à votre papa. On l'entend, ça. Écoutez-moi, je pense que nous avons tous notre passé, tous. Mais j'aimerais que quelqu'un me trouve un texte dans la Bible, un, où le Seigneur fouille dans le passé pour bénir quelqu'un. Quelqu'un m'a dit, dernièrement, si, il y en a un. Examinez-vous vous-même. Et j'ai dit, mais ça n'est pas ça. Parce qu'il n'est pas dit, examinez-vous vous-même pour savoir si votre passé allait bien. Il est dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc, si vos yeux sont fixés sur le Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Et mes frères et sœurs, ce texte, il est très simple, quelques versets. Il est là pour nous prouver une chose, c'est que le seul moyen de retrouver du service, de retrouver ce qu'on a perdu, c'est le miracle de la croix. Et mes frères et sœurs, je vous assure, hier je priais, j'étais en lutte hier, parce que justement j'avais ce texte et je me demandais à quoi Dieu voulait m'amener. Mais je sais une chose, mes frères et sœurs, que dans toutes les églises du monde, le seul moyen que l'on vive quelque chose, c'est d'être au Jourdain, d'avoir un projet qui vienne de Dieu et de nous mettre à la croix, de revenir à la croix. Et si vous avez perdu quelque chose, allez à la croix. On va prendre la Sainte-Seine. La Sainte-Seine, c'est revenir à la croix, chaque fois. Ce n'est pas une bénédiction, prendre la Sainte-Seine. J'espère que vous considérez ce moment, mais je reviens. Ce matin, je viens à la croix. Ce matin, j'avais ma Bible ouverte dans le livre de l'Apocalypse, justement, parce qu'à l'église d'Éphèse, Dieu dit, mais souviens-toi d'où tu es tombé. Parce que là, Élisée, il dit au gars, il dit, mais où il est tombé ? Où il est tombé le fer ? Voilà, il faut juste dire, mais où ça s'est passé ? Souviens-toi, qu'est-ce que c'est qui t'a amené à l'alcool ? Qu'est-ce que c'est qui t'a ramené à la pornographie ? Ça peut arriver. Et moi, j'entends des trucs des fois, je vous assure, je suis inquiet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce n'est pas la question de dire on va fouiller, mais peut-être réapprends à aimer ta femme. Oh, tu ne comprends pas ce que je vis. Mais est-ce qu'à la croix, il peut y avoir le miracle ? Est-ce que vous croyez que la croix peut faire un miracle ? Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, dans l'église où je suis, parce que j'ai pensé à ceux qui m'écoutent et qui sont dans d'autres dénominations et qui ne croient plus au miracle. Écoutez-moi, vous qui m'écoutez. Ce n'est pas parce que votre dénomination ne croit pas au miracle que Dieu ne fait plus de miracles. Il faut bien comprendre que Dieu ne change pas. Il est toujours le même, il est le Dieu des miracles. Et il guérit et il restaure. Un fer, ça ne surnage pas. La nature nous enseigne qu'un fer, ça reste au fond de l'eau, point. Mais Dieu nous enseigne qu'il est le maître de tout. Il est le maître des éléments et il peut être le maître de votre vie. Peut-être que vous avez complètement coulé, peut-être que vous avez enterré votre fer de hache, j'en sais rien. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'honnête qui ce matin, et moi le premier, est capable de dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il a demandé ? Il lui a dit, c'est pas compliqué. Où il est tombé ? Et puis enlève-le. Je veux dire, c'est pas compliqué. Seigneur, mais je veux moi aussi, spirituellement, c'est pas la peine de lever les mains, mais spirituellement, je tends la main vers toi, Seigneur. Cette sainte scène, c'est pas du pipeau, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Je tends la main vers toi. Alors tout à l'heure, j'ai fait allusion à la psychologie. Moi, j'entends tellement de ces choses. Et c'est tellement en train de rentrer dans nos églises. Je vais vous dire, ce n'est pas la psychologie qui fera un miracle. Le miracle, c'est la prédication de la croix qui fera le miracle. Pour les chrétiens, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il ne parle pas des pécheurs. Bien sûr, les pécheurs, ils seront sauvés par la prédication. Qui peut le plus, peut le moins. Mais mes frères et sœurs, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Comment la croix peut me redonner la bénédiction ce matin? C'est aussi simple que ça? Eh bien, ouais. Vous le croyez, mes frères et sœurs? C'est aussi simple que ça. Seigneur, oui, je me souviens, c'est là que j'ai recommencé à pécher. Parce qu'il s'est passé ça, je me suis disputé avec un frère, et je l'ai mal vécu, et ça m'a pris la tête. Et j'ai recommencé à boire tous les soirs mes 3 ou 4 apéros, et je ne peux plus m'en passer, et je suis lié par l'alcool. Et voilà, c'est parce que je... Eh bien, va voir le frère, et demande-lui pardon. Souviens-toi d'où tu es tombé. Est-ce que ça peut arriver? Mais bien sûr que ça peut arriver, que Dieu nous donne cette grâce d'être miséricordieux les uns vis-à-vis des autres. Mais ne justifions pas cette affaire, cette désobéissance. Par contre, là c'est autre chose. Ne justifions pas notre entêtement ou le fait d'avoir enterré un talent d'une manière qui ne va pas être agréable à Dieu. Oui, je vais m'examiner. Mais pas pour savoir si quand j'avais 7 ou 8 ans, je marchais les pieds à l'intérieur, donc je suis timide parce que... Écoutez-moi, s'il vous plaît, arrêtez, je ne sais pas comment vous marchiez quand vous aviez 8 ans ou 9 ans, mais je peux vous dire qu'avec la croix, vous pouvez marcher jusqu'au bout, même si vous boitez un peu, ce n'est pas grave. Comment il s'appelle? C'est Méphibosheth, il a boité jusqu'à la fin, ce n'est pas grave, il est allé au ciel. Mes frères et sœurs, je ne sais pas ce que Dieu fera, mais une chose est sûre, c'est que la prédication de la croix, elle a le pouvoir de guérir. Vous le croyez? Et il faut que nous nous levions, il faut pas que l'œuvre de Dieu repose sur 20 personnes dans l'église ou 30 personnes dans l'église. Ça, c'est une idée du diable, ça. Il faut que, si vous avez pris le baptême, vous avez dit à Dieu, Seigneur, ma vie, elle t'appartient. Oui ou non? Ou alors ce baptême, vous avez juste pris un bain. Et je suis sérieux. Mais si vous avez pris un baptême biblique qui est précédé d'une repentance, d'une conversion, d'une nouvelle naissance et d'un engagement, si vous avez pris un vrai baptême, vous avez décidé de donner votre vie à Dieu. Alors, il y en a qui ont perdu le talent. Il y en a qui ont enterré le talent. Moi, ça me fait peur pour vous. Mais Dieu est un Dieu de miracles. S'il fait surnager les fers, il peut faire remonter les talents d'un morceau de terre, je pense. Alors, s'il y a quelqu'un ce matin qui dit, mais moi, je veux trouver ma place dans l'église. Alors, c'est à vous, à moi, à chacun, de travailler ensemble, de nous exhorter. Mais mes frères et sœurs, nous devons tous faire quelque chose pour le Seigneur. Est-ce que vous entendez cette parole? Vous savez, Élisée a jeté le bout de bois. Moi, hier, je dis au Seigneur, mais à quoi ça correspond, ma prédication, par rapport à ça? Et bien, c'est comme si Dieu me disait, mais toi, si tu prêches la croix, tu jettes les vérités de la croix sur un auditoire. Et c'est à eux de saisir la victoire. Et qui, ce matin, sérieusement, en quelques secondes, ça ne va pas prendre 3 mois, vous n'avez pas besoin de 6 heures de thérapie, vous avez besoin de quelques secondes, comme pour le salut, où on a fait un acte de foi, on a accepté Jésus comme sauveur. Là, ça prend quelques secondes, une seconde, une, vous le croyez? Le temps de dire presque merci. Seigneur, je veux retrouver ma place dans l'église. Je veux trouver ma place dans l'église. Et le Seigneur, il vous bénira. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? C'est sérieux. Cette affaire, c'est sérieux. Je ne sais pas de quoi vous avez besoin. Vous avez besoin de quoi? Eh bien, d'être touché par la croix. J'ai besoin d'être touché par la croix. Moi, le premier. On n'est pas là pour s'accabler. On est là pour dire, mais ce miracle, il se passe au Jourdain. Il se passe quand on est en train de travailler pour l'œuvre de Dieu. Si on fait rien, on ne verra pas de miracle. Ne nous attendons pas. Dieu ne fait pas des miracles pour nous faire plaisir. Ça correspond à quelque chose. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Tu es venu à l'Assemblée Générale? Tu es venu à l'Assemblée Générale? D'accord. Mais est-ce que tu es venu à la croix? Voilà, moi en tant que pasteur, en tous les cas, je suis président de l'Église et je suis pasteur de l'Église. Mais je peux vous dire que moi, la présidence, c'est pas grave. C'est pas ce que j'ai demandé à Dieu, en tous les cas. Mais pasteur, oui, c'est une responsabilité. Et ma responsabilité, là, elle est grande, de te dire, mon frère, tu veux savoir si l'Église a eu 10 000 euros de plus ou 10 000 euros de moins? Franchement, mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ça? Mais toi, quand tu vas passer devant Dieu, est-ce que tu vas entendre retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être honnête ce matin et dire mais c'est pour moi cette prédication, il faut que je revienne à la croix, j'ai essayé, mais bien sûr, ça ne marche que par la croix. Le bois, il ne serait pas remonté comme ça. Il faut la croix. Si vous ne vous en sortez pas, c'est pas compliqué, c'est que vous ne vivez plus près de la croix. À la croix, il y a la victoire et la guérison. Il y a la délivrance. Il y a la bénédiction. Vous le savez. C'est le diable qui vous a éloigné de lui, éloigné du Seigneur. Alors que ce matin, ce peu de pain, ce peu de vin soit une occasion de faire un acte de foi. Oui, examinez-vous, vous-même, pour savoir si vos yeux sont sur le Seigneur, si vos yeux sont sur la croix, si vos yeux sont sur le calvaire, et vous aurez la bénédiction. Levez-vous, mes frères et sœurs, vous qui êtes baptisés par immersion, vous qui êtes heureux de lui appartenir, levez-vous et comme ce serviteur, oui, je reviens au calvaire. Vraiment, je reviens au calvaire. Je sais que c'est là, à la croix, au renoncement, à l'abnégation. C'est là, devant Jésus, devant ses mains percées, c'est là que je vais retrouver la vie. Comme quand Jésus a dit à Thomas, mais regarde mes mains. Il aurait pu lui faire un sermon de 3 heures. Franchement, il aurait pu lui faire un sermon. Moi, je l'aurais sermonné au pauvre Thomas. Et là, qu'est-ce que je ne lui aurais pas dit? Jésus lui a juste dit, regarde mes mains. Vous avez une preuve de plus que c'est la croix qui nous guérit. Alors toi, mon frère, toi, ma sœur, si tu as perdu le talent en travaillant, j'ai envie de te dire, c'est pas trop grave. Si vous l'avez enterré là, c'est grave. Mais la puissance de la croix peut guérir les deux, c'est clair. Alors là, dans le secret de notre cœur, dites à Jésus, Seigneur, je reprends la croix. Je reprends mon service dans l'Église. Où je vais trouver mon service dans l'Église. Vous devez le trouver. Vous devez le trouver. Et Dieu vous bénira. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions d'avoir institué la scène. Vraiment, Seigneur, ce moment où nous pouvons prendre ce pain et ce vin. Seigneur Jésus, merci d'avoir institué vraiment la Sainte Seine. Nous te rendons grâce, Seigneur. Et nous voulons voir, oui, qu'au calvaire, il y a la puissance de Dieu pour sauver les croyants. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.